3h30 en temps universel, il est 5h30 à Rome. Merci d'écouter RFI.
Arthur Ponchelet.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Afrique Matin qui commence avec le journal à la une ce matin. Un avocat inébranlable de la paix, un messager d'espoir. Le Monde rend hommage au pape François, le souverain pontife décédé hier, 88 ans dont 12 comme chef de l'église catholique. Sur le continent, que garde-t-on de François? On est à Bangui et à Antananarive dans un instant. Dans ce journal aussi, la guerre au Soudan et la ville de Niala qui se prépare à des combats, la politique en RDC et après le PPRD, d'autres partis politiques pourraient bien être suspendus. Et puis la CEDEAO commence à souffler ses 50 bougies aujourd'hui, mais fait face à l'une des plus grandes crises de son histoire. Il était le pape venu du bout du monde, selon ses propres mots. Premier latino-américain à devenir chef de l'église catholique, Jorge Mario Bergoglio, de son vrai nom, s'est donc éteint hier dans son appartement de Rome. Il avait 88 ans. 24 heures après son décès, l'heure est donc aux hommages et aux souvenirs, notamment ceux des voyages du souverain pontife. Pendant 12 ans, il ne s'est pas toujours rendu là où on l'attendait. Lampedusa pour parler de la crise migratoire, l'Irak et le sort des chrétiens d'Orient, mais aussi l'Afrique par 5 fois, notamment la Centrafrique en 2015, 2 ans après le coup d'état de la coalition Séléka. 10 ans après, que reste-t-il de cette visite? Rofsef Domiale a rencontré des fidèles banguisois. Reportage.
À l'entrée de la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Bangui, certains fidèles ont érigé un hôtel improvisé pour rendre hommage au souverain pontife. Quelques bougies, des fleurs, des témoignages et des pleurs. Géjulien Dakozo est venu avec sa famille pour se recueillir.
Je me souviens en ce moment-là, il y a de cela 10 ans, on était présents. Quand il est venu, c'est la première fois que le pape se rendait dans le quartier kilomètre 5, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas la rentrée et sortie de la population. Quand il est parti au kilomètre 5, il y a maintenant cette circulation fluide entre la population.
Des passants s'arrêtent également pour se recueillir et prier. Charles Armel Douba tient une photo du pape François entre ses mains. L'ancien ministre des Affaires étrangères se souvient de ses actions en faveur de la paix dans le pays.
Cette visite a permis de mettre fin à une transition et permettre l'organisation dans la paix, la sécurité, la concorde des élections de 2016 qui ont permis effectivement de voir la marche de la République centrafricaine d'aujourd'hui.
Le pape François a laissé des valeurs indélébiles et les centrafricains doivent s'en inspirer, selon Fernandez Bonza.
Le passage du pape François a ouvert les portes vers la paix. Mais je dirais que nous devions encore travailler davantage pour pouvoir garder cette paix que lui, il est venu instaurer.
10 ans après le passage du pape François à Bangui, les Centrafricains ont l'espoir de mettre fin au cycle de violence et de bâtir un monde meilleur. Rolf Steve Domiale, Bangui. RFI.
La Centrafrique, le Kenya, le Maroc aussi en 2019. Et puis il y a eu cette visite en République démocratique du Congo. Et cette phrase, retirez vos mains de l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter ni une terre à dévaliser. Dénoncer le colonialisme économique, la corruption, mais aussi la pauvreté. Le pape François l'avait fait à Madagascar en 2019. Des centaines de milliers de fidèles avaient alors traversé tout le pays pour acclamer le souverain pontife. Sur la grande île, que garde-t-on du pape François? Ortasi Marcelin et Rivundi Lalaïn est l'évêque du diocèse d'Ambatoun-Jazak.
Le pape François, il a sémé l'espérance à Madagascar. Même si l'Église n'arrive pas à faire beaucoup de choses, l'attitude d'être proche des gens, l'attention particulière envers les pauvres, les plus démunis, je pense que ça, c'est la force du pape François. Quand il est venu à Madagascar, je me souviens bien, il a parlé de la proximité des évêques envers le Saint-Pierre, envers Dieu, envers le peuple, envers les prêtres, tout ça. Et je vois bien là que le pape François, il a mis en pratique la synodalité, le marché ensemble. Il est venu visiter les pauvres, les plus petits à Madagascar. C'est le pape François qui a permis de baptiser tous les enfants, même s'il y a des situations irrégulières des parents, lui, il a dit, les enfants n'ont pas de faute. C'est quelqu'un qui ne regarde pas la perfection. Lui, il est allé outre ce qui est écrit, parce qu'il pense à la grande miséricorde de Dieu. Les gestes du pape François, tout ça, ça reste dans les cœurs des fidèles.
Propos recueillis par Sarah Tetto. Depuis l'annonce du décès du chef de l'Église catholique il y a un peu moins de 24 heures, le monde entier lui rend hommage et les dirigeants de la planète sont unanimes. Le pape François, un humaniste qui savait donner de l'espoir, un homme de justice ou encore une figure de la dignité humaine, voilà la trace que laisse le souverain pontife dans de nombreux pays. Et Alexandra Brangeon, sur le continent africain aussi, les hommages affluent.
Un avocat inébranlable de la paix a salué l'Union africaine. Le président de la commission de l'UA qui rappelle que le pape François a amplifié les voix de ceux qui n'en ont pas et s'est montré solidaire de ceux touchés par les conflits et la pauvreté. Pour le Congolais Félix Tshisekedi, dirigeant du plus grand pays catholique d'Afrique, le pape François a marqué le monde par sa simplicité, sa proximité avec les plus vulnérables et son appel incessant à la fraternité entre les peuples. Un sentiment partagé par son homologue sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, qui évoque son appel constant au dialogue entre les peuples et les religions. Pour le président burundais, Evariste Ndayishimiye, fidèle de l'Église catholique, c'est le message de foi et d'humanité du pape dont il faut se rappeler. Un message qui restera une source d'inspiration, a réagi le président gabonais, Oligui Nguema, également fervent catholique. Le sud-africain Cyril Ramaphosa a salué pour sa part la vision d'inclusion, d'égalité et de souci des autres. Par son humilité et sa profonde compassion pour les pauvres, ajoute le président kényan William Ruto, il a donné l'exemple d'un leadership au service des autres. Enfin, sa mort fait perdre au monde sa voix la plus incisive pour la justice et l'action contre le changement climatique, déplore le président Bola Tinubu du Nigeria, où vivent plus de 18 millions de catholiques.
Alexandra Brangeon, des hommages unanimes, donc, même si entre le pape François et les catholiques africains, la relation n'a pas toujours été simple, notamment il y a 2 ans, avec la déclaration Fiducia Supplicans. Ce texte ouvrait la porte à la bénédiction des couples homosexuels. Une proposition largement rejetée sur le continent, un refus que, à l'époque, le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, avait porté, Lisa Fabian.
Fin décembre 2023, la déclaration Fiducia Supplicans crée la stupeur et une consternation générale en Afrique. S'en suivent des réactions offusquées que se remémore le cardinal Fridolin Ombongo, interrogé sur la chaîne KTO.
C'était une sorte de levée de bouclier de la part des laïcs, de la part de prêtres, de la part de certains évêques, mais alors qui allaient frontalement en guerre contre le pape.
Pour relayer la position des Africains, l'archevêque de Kinshasa commence alors à compiler les réactions venues des différentes conférences épiscopales qui s'accordent sur un nom quasi unanime.
Je ne suis pas seulement président du CHEAM, je suis aussi membre du C9. À ce titre, je suis le conseiller du pape. Je lui ai écrit une lettre personnelle, j'ai pris l'ensemble de ces documents et je suis venu à Rome rencontrer le pape.
Le cardinal Ambongo estime que ces bénédictions ne pourront pas se faire en Afrique sans s'exposer à des scandales. À Rome, il travaille à la rédaction d'un nouveau document.
Nous avions 2 objectifs à sauver. Premièrement, calmer nos fidèles du continent africain qui s'étaient sentis blessés dans leur foi. Mais en même temps, sauver la communion avec les successeurs de Pierre.
Les Africains obtiennent finalement une forme de dérogation qui acte leur refus définitif d'appliquer Fiducia Supplicans sur la base d'une spécificité culturelle propre au continent.
Lisa Fabian, la relation entre le pape et l'Afrique, on y revient aussi longuement sur notre site RFI.fr. Place maintenant à une période de questions. Qui pour diriger l'Église catholique et comment vont se dérouler les prochains jours? Quelles sont les étapes avant le conclave? On en parle tout au long de la matinée édition spéciale sur RFI. Andréane Mellard et ses invités vous attendent à partir de 6h10, temps universel. 3h39 en temps universel. Dans le reste de l'actualité, la guerre au Soudan et la ville de Niala dans le viseur de l'armée soudanaise. La capitale du Darfour Sud est sous le contrôle des paramilitaires des forces de soutien rapide. Depuis 2 ans, ce nœud stratégique du pays où les FSR veulent établir leur gouvernement parallèle s'apprêterait à devenir le théâtre de combat, Ouda Ibrahim.
Tout à Niala indique que la situation se dirige vers une confrontation entre l'armée et les paramilitaires. Selon des informations concordantes venant de l'intérieur de la ville, les forces de soutien rapide sont en train de fortifier leurs positions. Elles creusent des tranchées et posent des mines tout autour de Niala, surtout autour de l'aéroport. Les habitants se montrent inquiets et s'attendent au pire. Les renseignements militaires soudanais indiquent que l'aéroport de Niala est largement utilisé pour recevoir des armes et de mercenaires, mais aussi pour évacuer des blessés haut gradés des FSR vers Dubaï. Soudan Tribune, se basant sur des fuites du prochain rapport du groupe des experts de l'ONU, accuse Abu Dhabi d'avoir doté les FSR d'un système de défense antiaérien moderne. Il s'agit, selon des experts militaires, du FK-2000 chinois. Information que des images satellites récentes confirment, le système est effectivement déployé près de l'aéroport de Niala, le plus important du Darfour. D'autres armes sophistiquées apparaissent sur ces images satellites, des radars puissants et un système de brouillage du signal des drones.
Ouda Ibrahim, après les poursuites judiciaires engagées contre Joseph Kabila et la suspension de son parti, le PPRD, le gouvernement congolais s'apprête-t-il à aller encore plus loin ? On le rappelle, l'ancien président est dans le viseur des autorités qui l'accusent notamment de complaisance avec le M23. Désormais, Patient Ligodi, d'autres personnalités politiques pourraient être concernées.
Des arrêtés ministériels ont été signés par le ministre de l'Intérieur pour formaliser la suspension des activités du PPRD sur toute l'étendue du territoire national. Selon les sources des RFI, d'autres partis politiques pourraient également être concernés. Il s'agit dans un premier temps d'une mesure préventive, renseigne-t-on du côté des autorités congolaises. Le parquet compétent devra se prononcer dans un délai de 15 jours sur chacun des cas, disent les mêmes sources. Kabila est astreint à des obligations de par son statut d'ancien président. Nous sommes l'État, nous avons nos services, il est sorti du pays clandestinement et est rentré clandestinement, affirme une source gouvernementale. Et un haut responsable politico-sécuritaire congolais va plus loin. À part Joseph Kabila, nous savons qu'il y a d'autres acteurs politiques connus qui ont des mouvements de Kigali et de Goma. Du côté du ministre de la Justice, on annonce que des procès seront lancés dans les prochains jours. Tous les biens identifiés, avoirs et comptes bancaires seront gelés. Des personnes ont été identifiées, ils ne pourront pas quitter jusque-là le pays. Il y aura des procès, à déclarer à RFI le ministre de la Justice, Constant Mutamba.
Patient Ligodi, favoriser la coopération et l'intégration économique de l'Afrique de l'Ouest. Un projet concrétisé il y a 50 ans avec la création de la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. 15 États en font partie et célèbrent cet anniversaire à partir d'aujourd'hui à Accra, tous, sauf 3, le Mali, le Burkina et le Niger, les pays de l'Alliance des États du Sahel, ont annoncé leur départ de l'organisation sous-régionale. 50 ans après, comment en est-on arrivé là ? Élément de réponse avec Pierre Firsion.
Critiquée, fragilisée, l'organisation est aujourd'hui à la croisée des chemins. La CEDEAO a pourtant démontré par le passé qu'elle savait s'adapter. En 90, face au conflit au Libéria, elle met sur pied une force d'intervention, l'ECOMOG. 9 ans plus tard, elle s'ouvre aux enjeux sécuritaires en adoptant un protocole relatif aux questions de paix et de sécurité. Avant d'adopter en 2001 un autre protocole consacré cette fois à la démocratie et à la bonne gouvernance. Mais l'organisation va profondément être déstabilisée par la multiplication des conflits et l'apparition de l'extrémisme violent.
La CEDEAO n'était pas équipée pour ça.
Amandine Nyanguenon est chercheur senior à l'Africa Policy Research Institute de Berlin.
Ça a été difficile à la fois de mettre en place les dispositifs, d'intervenir en même temps, de faire la prévention. Elle s'est laissée un peu déborder par tout ça. Et puis par le fait qu'elle a perdu la main sur son agenda.
Et ce, au profit de nouvelles structures comme le G5 Sahel ou l'initiative d'Accra. Avec la naissance de l'AES, sa survie est désormais en jeu. Pour continuer à exister et à faire entendre sa voix, l'organisation n'a d'autre choix que de se réformer en profondeur.
Aujourd'hui, c'est de retourner vers ce qu'elle avait prôné depuis le départ, c'est-à-dire plus d'intégration économique et politique, donc se retourner vers les populations, et puis donner surtout de la visibilité sur ses actions. Beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est la CEDEAO, donc je pense qu'il y a un gros déficit de communication.
Des changements qui dépendent avant tout de la volonté des chefs d'État, car plus que la Commission, ce sont eux qui détiennent le pouvoir de faire évoluer les choses à travers la conférence des présidents.
Pierre Firsion, il est 3h44 en temps universel.
Afrique Matin sur RFI. Arthur Ponchelet.
Voilà pour le journal. Restez avec nous. Dans les prochaines minutes, le secteur énergétique malgache en crise. Et cette question, comment mettre fin au délestage ? On en parle dans Afrique Économie. Direction ensuite la Chine. Dans la chronique des matières premières, Pékin fait une croix sur le blé et le gaz naturel liquéfié américain, victime de l'offensive commerciale de Donald Trump. Et puis retour sur la première journée de la tournée d'Emmanuel Macron dans l'océan Indien. On est à Mayotte avec nos confrères de la première. Mais d'abord, direction la Tunisie. Il y a quelques semaines, les autorités ont démantelé le camp de migrants de Sfax. C'est à l'est du pays. Des centaines de subsahariens y vivaient et ont fui vers les champs d'oliviers où ils sont désormais installés. Beaucoup disent avoir tout perdu, mais refusent de partir tant qu'ils n'auront pas tenté la traversée vers l'Europe. Notre correspondante en Tunisie, Lilia Blaise, est partie à leur rencontre. Reportage.
Dans le campement du kilomètre 22 à El Amra, plusieurs centaines de migrants sont installés dans des tentes de fortune. Quelques-unes sont un peu plus solides avec des structures en bois ou des bâches. Mais Nadine, 32 ans, camerounaise, doit dormir à la belle étoile à même le sol. Début avril, elle a dû fuir le campement où elle vivait. Il a été démantelé par les autorités.
Parce que là où j'étais d'abord, on a cassé là-bas. Je n'ai pas d'abri. Je dors sur les étoiles. C'est pas facile pour nous. Bon, j'ai vu, il y a aussi des Noirs comme moi et je suis venue. Je sais qu'ils ne peuvent pas me jeter. Je me suis déjà déplacée comme ça plus de 4 fois. Plus de 4 fois. On vient, on casse, on nous renvoie, on nous jette, on nous tabasse. C'est pas facile. Dernièrement, même, je suis tombée, j'ai vraiment eu mal.
Pendant que certains jouent au foot, d'autres construisent leurs tentes. Quelques-uns pris dans un espace qui sert de mosquée. Un petit terrain à ciel ouvert dont les bases ont été délimitées. Avec des bouteilles plastiques remplies de sable. Doucouré Souleymane a 23 ans, il vient de la Côte d'Ivoire. Il prépare un thé avec ses amis sur le son de Maître Gims. Il a fui le campement du kilomètre 24, détruit par les autorités.
Un matin, on était là, ils sont venus, ils ont donné des avertissements. Ils ont dit que non, nous devons quitter les lieux, mais on ne savait pas où aller. Donc on a demandé, ils disent que non, ils nous donnent 72 heures. Qu'après les 72 heures, bon, si on ne débarque pas de lui, bon, ils vont venir. Après ils sont venus, ils ont commencé à gâter les trucs, nous chasser, brûler nos trucs. On dormait au dehors pendant 3 jours. Après on est venu se réfugier ici. Bon, comme ça ne va pas, la famille a essayé de nous envoyer quelque chose. On a pu construire une maison pour dormir là-dedans.
Souleymane dort avec 15 autres personnes sous une structure faite de briques et de brocs. Mais toutes ces épreuves ne le font pas renoncer pour autant.
Moi, je suis venu pour l'Italie. Et personne n'a payé mon transport pour arriver ici. Et c'est comment ma famille a souffert pour que j'arrive ici aujourd'hui. Donc, ce n'est pas ça qui va faire que non, moi, je vais me retourner là.
Plus loin dans les oliveraies, d'autres campements sont visibles à l'œil nu. Selon les estimations du gouvernement tunisien, il serait près de 20 000 migrants en situation irrégulière à vivre de la sorte. Lilia Blaise, El Amra, Sfax, RFI.
Reportage à lire et réécouter aussi sur notre site rfi.fr. Mardi 18 avril 2025, c'est au Vatican que s'écrit l'actualité du monde. Aujourd'hui, le Saint-Siège doit annoncer la date des obsèques du pape François, normalement dans les prochains jours. Les cardinaux se réunissent ce matin pour une première congrégation générale. Après l'annonce hier du décès de François, le chef de l'Église catholique mort à l'âge de 88 ans d'un accident vasculaire cérébral, avait annoncé hier matin le Saint-Siège. La journée qui a suivi a été évidemment marqué par de nombreux hommages et rassemblements à travers toute la planète et des messes de prière, des messes et des prières en la mémoire d'un souverain pontife dont on se souvient notamment des prises de position en faveur des plus pauvres, des migrants, de la défense de l'environnement ou des homosexuels. Plusieurs pays comme l'Espagne et l'Argentine, le pape était argentin, ou le Timor oriental ont annoncé des jours de deuil national. La dépouille mortelle de François devrait être transférée vers la basilique Saint-Pierre à partir de demain, mercredi, pour être exposé aux fidèles. La mort du pape François, on en parle évidemment tout au long de la matinée sur la Radio du Monde, édition spéciale sur RFI, autour d'Andréane Mellard et ses invités. Rendez-vous à partir de 6h, temps universel. 3h49 en temps universel. Le président français a entamé hier une tournée dans l'océan Indien. Emmanuel Macron était à Mayotte hier à La Réunion aujourd'hui et il est attendu à Madagascar pour participer au sommet de la commission de l'océan Indien. Lors de cette visite, il doit parler diplomatie, restitution d'ossements, mais aussi d'économie et surtout d'énergie. Le secteur est sinistré sur la grande île, plus de 8 heures de délestage par jour, si bien que le problème est devenu une menace politique pour le pouvoir malgache. C'est le dossier Afrique Économie, signé Claire Fage.
À Madagascar, il n'y a même plus assez de courant pour distribuer l'eau dans les bornes fontaines urbaines. Les manifestations se multiplient devant le siège de la compagnie publique d'électricité, la Jirama, une société qui absorbe 10% des revenus de l'État tant elle est mal gérée, observe Ketakanji Narafich, directrice exécutive de Publier ce que vous payez.
Les marchés publics et les contrats de production d'électricité sont souvent attribués via des procédures opaques. Je pense notamment au contrat Léonard conclu entre la Jirama et les loueurs de groupes électrogènes qui font fonctionner la plupart de ces installations et qui les facturent souvent à des prix exorbitants. Les fournisseurs de combustible, tout comme les loueurs de groupes, ont tout intérêt à ce que la crise perdure. Il y a aussi la falsification des paramètres de facturation de la Jirama. Manque à gagner pour la compagnie elle-même.
Les barrages, même s'ils sont plus souvent à sec une partie de l'année, restent la piste principale pour augmenter l'accès des Malgaches au réseau. Il est un des plus faibles au monde. Mais en 20 ans, aucun projet majeur n'a pu voir le jour, souligne Ketakanji Narafich.
En 2004, ces barrages-là, notamment Voulbé et Saouf, étaient déjà inscrits dans les soi-disant priorités du gouvernement. Les raisons évoquées sont le retard dû à des problèmes de financement, de coordination et de gouvernance. Et je pense que c'est ce dernier point surtout qui prédomine, le manque de transparence dans les appels d'offres.
Le président Macron pourrait annoncer la relance du projet de barrage de Voulbé par la compagnie française EDF grâce à un prêt de l'Agence française de développement. Mais pour qu'il soit viable, il faudra que la Jirama soit en mesure de payer cette électricité, explique Louvarinel. Elle représente la France dans le réseau francophone des régulateurs de l'énergie.
Quand vous financez un système de production, donc à savoir une centrale hydro ou une centrale photovoltaïque par exemple, vous allez avoir un bailleur, mais en fait, il y a un modèle économique qu'il faut répondre. Et là, Madagascar ne trouve pas encore le dessin, j'allais dire, financier et économique pour expliquer que, en fait, il y aura une rentabilité et que cette coopération ne sera pas que un projet qui va fonctionner pendant 5-6 ans et puis après qui va plus marcher parce que, justement, manque d'entretien, parce que les Malgaches n'auront pas su faire.
La réforme de la Jirama est donc un préalable au succès des projets énergétiques malgaches et elle est exigée par le Fonds monétaire international au lendemain d'une mission dans la Grande Île.
Claire Fache pour Afrique Éco, à réécouter quand vous le souhaitez sur l'application RFI Pure Radio. La chronique des matières premières pose ses valises en Chine. Ce matin, on revient sur l'offensive commerciale américaine et ses conséquences pour Pékin avec les derniers chiffres des douanes. Ils ont été communiqués ce week-end et montrent un effondrement des importations de certaines matières premières en provenance des États-Unis. Bonjour Marie-Pierre Olfan.
Bonjour.
Au mois de mars, les plus touchés sont le blé et le gaz naturel liquéfié.
Oui, les chiffres montrent des achats de blé américain presque insignifiants au mois de mars, alors que la Chine achète d'ordinaire plus de 15% de son blé aux États-Unis. Même tendance pour le gaz naturel liquéfié, la Chine n'a quasiment rien acheté aux États-Unis le mois dernier. Ses commandes avaient déjà diminué en janvier et en février. Résultat, sur 3 mois, la Chine a vu ses importations de gaz américain chuter de 70%. En parallèle, elle a acheté plus de GNL au Qatar et en Indonésie.
Et sait-on si cette baisse est liée à la guerre commerciale ?
Alors, ces chiffres sont ceux du mois de mars. Les droits de douane chinois pris en rétorsion aux taxes américaines n'étaient alors que de 10 à 15% sur les produits énergétiques et sur les produits agricoles. Pour voir si le phénomène s'amplifie et s'il y a une véritable corrélation entre les taxes et les volumes importés, il va falloir attendre, d'autant que les taxes chinoises sur les produits américains sont désormais supérieures à 100%. La question se pose en particulier pour le blé, car pour l'instant, le lien n'est pas évident et il n'y en a peut-être aucun, selon certains experts. La Chine a en effet beaucoup importé ces 3 dernières années et ses stocks sont suffisamment élevés pour qu'elle achète moins. Et de fait, la Chine achète aussi moins de blé à ses autres fournisseurs habituels. Il faudra aussi attendre les prochains mois pour savoir si la chute des importations de coton et de maïs au mois de mars s'inscrit dans la durée et reflète un véritable changement du circuit d'approvisionnement chinois.
Il y a quand même des exceptions, Marie-Pierre, la Chine continue de maintenir des niveaux d'importation élevés pour certaines matières premières.
Oui, c'est le cas du pétrole américain et du soja. Les importations chinoises d'oléagineux ont augmenté de 12% au mois de mars par rapport à l'année dernière. Elles reflètent, selon les analystes, des achats d'importateurs stressés en fin d'année 2024. Mais le soja brésilien devrait bientôt reprendre le dessus, la récolte sud-américaine étant disponible en Chine à partir du printemps.
Marie-Pierre Olfant pour la chronique des matières premières. Merci à vous et très bonne journée. Bientôt 4 heures en temps universel. Un coup d'œil à notre direct sur notre chaîne YouTube. Vous êtes nombreux encore à nous écouter ce matin. Vous nous saluez de Binga en RDC ou encore de Kingakati. Merci à vous de vous réveiller avec nous. Avant de retrouver Marion Cazeneuve pour le journal, direction Mayotte. C'est là que nous emmène le journal de l'océan Indien de nos confrères de La Première. On le disait, Emmanuel Macron était sur place hier et le président français a définitivement enterré le projet de piste longue. Bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour. Projet pourtant encore plébiscité il y a à peine quelques jours par la quasi-totalité de la classe politique locale mahoraise. Mais dans son discours au conseil départemental hier après-midi, le président de la République a mis fin à la discussion. Il faudra construire un nouvel aéroport à Mayotte et il sera implanté sur la Grande Terre.
J'ai bien reçu les courriers qui m'ont été transmis et j'ai bien vu l'émotion, parfois les mobilisations qu'il y avait sur la question de la piste longue. Je connais un peu ce sujet puisque j'ai promis une piste longue en 2019 à Petite Terre. Je les ai dit, on va le faire, la République va le faire. Et ensuite, sur la base de cette promesse, des rapports ont été faits. Et l'intégralité des rapports qui ont été faits sur la promesse que j'ai faite, on dit que c'était impossible. Parce qu'ils ont dit, elle est submersible, vous l'avez encore vécu il n'y a pas longtemps. Si on le fait, il y a au moins un an et demi d'impossibilité de l'utiliser. Et il faudrait ensuite monter une partie de cette piste sur pilotis, ce qui amène à plusieurs milliards d'euros la facture. Alors, si je veux faire plaisir, si j'ai bien compris, à la majorité, je peux ici réitérer ma promesse. Et je partirai sans ennui et je vous laisserai à de nouvelles études. Ça n'est pas l'idée que je me fais ni de la responsabilité qui est la mienne, ni de la sincérité que je vous dois. La seule façon de faire une grande piste, c'est de la faire sur grande terre.
Avant son discours, le chef de l'État s'était entretenu avec les élus locaux du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte, projet présenté dans la foulée lors d'un conseil des ministres exceptionnel tenu dans l'avion qui a amené le président et sa suite à l'île de la Réunion. La Réunion qui est en effet la deuxième étape de la tournée d'Emmanuel Macron dans le sud-ouest de l'océan Indien, avant des visites à Madagascar et à Maurice. Ce mardi, place donc aux problématiques du département 97-4, presque deux mois après le passage du cyclone Garance. Lise Dumont.
Un programme à la fois précis et évasif, car si les thèmes de chaque séquence sont mentionnés, les lieux ne le sont pas toujours. Toutefois, on sait que l'avion présidentiel touchera la piste réunionnaise à 22h lundi soir. Mardi, la visite officielle débute dans le chef-lieu par une cérémonie protocolaire au Monument aux Morts à 9h. En fin de matinée, une rencontre avec des exploitants agricoles autour de la souveraineté alimentaire précède une présentation d'une mission de lutte anti-vectorielle, l'occasion d'aborder la mobilisation du RSMA auprès de l'ARS. En milieu d'après-midi, les acteurs économiques et la filière agroalimentaire auront un temps d'échange avec le président, avant à 18h30 un échange, cette fois-ci, avec les élus des collectivités territoriales. La journée se terminera par, je cite l'Élysée, une remise de décoration collective. Fin de citation. Et dans le sillage d'Emmanuel Macron, trois ministres d'État sont aussi du voyage, ceux des Outre-mer, de l'Agriculture et de la Santé, attendus eux aussi sur les questions relatives à leurs charges respectives afin de répondre aux inquiétudes liées aux aides post-garance, à l'épidémie de Chik et à l'adaptation de la Réunion à un changement climatique de plus en plus prégnant.
Fin de cette édition. Bonne journée.
Bonne journée à vous aussi, Benoît. Et c'est ainsi que se referme cette demi-heure consacrée à l'actualité africaine. Ryan Bois à la réalisation ce matin, Xavier Besson à la rédaction en chef. Merci à eux, merci à vous, surtout de votre fidélité à la Radio du Monde. L'actualité africaine revient d'ici une demi-heure. Ce sera avec Nemo en piste. Je vous rappelle le programme de cette matinée sur RFI consacré au décès du pape. Édition spéciale avec Andréane Mellard tout à l'heure à partir de 6h, temps universel. On revient en longueur sur le décès du souverain pontife hier à 88 ans. Très bon réveil à l'écoute de RFI.
Radio Foot International, du foot, mais pas que.
Bah, comme on dit en NBA, puisque les playoffs vont bientôt débuter, bah, on arrive dans le money time, quoi.
C'est une bonne formule, ça, Nabil.
Ça n'a jamais été utilisé.
Je crois pas. Hein.
Et je la dépose avant que tu
espères. T'aurais pu faire parler de la théorie du ketchup.
Utiliser un jour,
Radio Foot International.
Ouais. T'aurais pu nous faire la théorie du ketchup aussi, tu sais, quand tu. Ça tombe, quoi.
Non, je l'ai faite pour Algérie-Mozambique, sinon on a gagné 5 ans.
Du lundi au vendredi à 16h10 et 21h10 TU sur RFI.